Les mots s'écrivent, les mots se parlent, les mots s'écoutent.
Et d'améliorer les positions provenant.
Tu es un
oui, bah oui, c'est ça, sérieux.
Les mots prennent tout leur sens et deviennent une mosaïque de rubriques. Les mosaïques des vies, votre émission hebdomadaire, tous les jeudis matins à 11h, rediffusion le dimanche suivant à 16h.
Les mosaïques des vies.
Bonjour et bienvenue donc dans mon émission Les Mosaïques des Vies, notre émission en direct. Et je reçois pour l'occasion Béatrice et Philippe, conseillers Pôle emploi à l'agence de Persan. Tout d'abord, merci, bonjour Béatrice.
Bonjour Evie.
Bonjour Philippe.
Bonjour Evie.
Je vous remercie vivement d'avoir répondu à mon invitation. Et donc je vous ai invité dans cette émission pour que vous puissiez, avec votre expertise et votre expérience, bien sûr, dispenser des conseils aux demandeurs d'emploi sur la rédaction du CV. Alors j'ai d'ores et déjà envie de vous demander, est-ce que le CV, à l'heure actuelle, est toujours d'actualité, à l'heure des réseaux sociaux, de l'évolution des nouvelles technologies ?
Eh bien oui, plus que jamais, Evie, le CV est l'élément indispensable à toute personne recherchant un emploi.
Le CV, c'est l'image du demandeur d'emploi, c'est la première chose que l'on voit de lui, donc c'est toujours un élément capital dans sa recherche d'emploi.
D'accord. Et dans une candidature, qu'est-ce qui est lu en premier ? La lettre de motivation ou le CV ?
Le CV.
Là, forcément, c'est le CV, on est d'accord là-dessus. La lettre de motivation ne vient qu'en second lieu. Une fois que le CV a été vu et accepté, à ce moment-là seulement, le recruteur va s'occuper de lire la lettre de motivation. Ça ne sera qu'un second temps, la lettre de motivation.
D'accord. Donc, d'où l'enjeu extrêmement important pour le demandeur d'emploi de soigner vraiment le CV. Presque, j'ai envie de dire, presque plus que la lettre de motivation.
Oui, le CV, c'est véritablement sa carte de visite. C'est ce qui lui permet de décrocher un entretien. Il doit être le plus vendeur possible. Et tout ce qu'il a fait doit être mis en avant afin de capter l'attention du futur recruteur et lui donner envie de recevoir cette personne pour pouvoir converser et puis voir avec elle si elle peut répondre au poste qu'elle cherche à pourvoir.
D'accord. Et existe-t-il sur Persan ou les environs des ateliers d'aide à la rédaction de CV ?
Oui, nous avons en interne, nous avons une aide partielle qui est fournie par ce qu'on appelle nos gilets bleus, c'est-à-dire nos contrats civiques. Qui aident nos demandeurs d'emploi qui sont sur les postes en libre accès à l'agence. Mais sinon, nous avons, nous, des ateliers qui sont organisés de façon très régulière avec un organisme qui s'appelle SJT, qui se trouve sur Persan, et qui, ce sont des entretiens collectifs, des ateliers collectifs, au cours desquels les demandeurs d'emploi peuvent rédiger, compléter et surtout mettre en page leur CV de manière la meilleure possible.
D'accord. Et donc ces personnes qui pourraient nous entendre, si elles veulent en savoir plus, on les invite vivement à se rendre par exemple à l'agence de Persan.
Bien sûr, elles demandent à leur conseiller simplement de prendre rendez-vous pour un atelier. Alors il faut évidemment que on voit le cas nous-mêmes, qu'on voit d'abord le CV qui a déjà été fait.
Oui, parce qu'on peut l'aider, on peut en parler avec le demandeur d'emploi pour justement faire en sorte de, ensemble, voir quelles sont ses priorités, les compétences qu'il a développées au fil de son parcours professionnel pour les mettre en avant. Et puis, dans un deuxième temps, une fois que lui-même a déjà travaillé sur son CV, l'envoyer sur un atelier pour le compléter, le mettre en ligne et qu'il soit visible d'un maximum de personnes pour être pris.
D'accord. Une petite question qui me vient comme ça. Une personne se disant « bon, ben moi, je vais y arriver, mais par contre, je suis content du fond de mon CV, mais j'ai un peu peur qu'il y ait quelques fautes d'orthographe. Quels conseils pourrait-on lui donner ?»
Les conseils, c'est d'abord de regarder autour de lui et de demander autour de lui si certaines personnes peuvent l'aider. Ensuite, sinon, c'est de pouvoir demander à son conseiller. Le conseiller, nous sommes tout à fait aptes. Normalement, nous avons des connaissances en orthographe suffisantes pour pouvoir l'aider de ce côté-là. Sinon, il y a toujours cet atelier dont nous parlions sur l'AJT. Et là aussi, bien sûr, il y a un contrôle de l'orthographe et de la syntaxe.
Très bien. Le site de Pôle emploi a changé, je crois.
Alors, il n'a pas vraiment changé.
L'interface
c'est cela.
A changé. Oui. En fait, donc maintenant, avant, on était plus sur les métiers, c'était les clés d'entrée. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, on est plus sur les compétences professionnelles qui sont devenues les clés d'entrée au retour à l'emploi. Puisqu'il faut savoir que des compétences, on en a dans le milieu professionnel, mais également personnel. Et l'objectif, c'est de les mettre en avant afin de répondre aux besoins des employeurs et faciliter le recrutement.
À ce sujet, d'ailleurs, on fait un petit appel à tous nos demandeurs d'emploi qui nous entendent. Surtout qu'ils n'hésitent pas à aller sur leur site, leur espace personnel. D'accord. Parce que justement, il y a des changements sur lesquels eux seuls, d'ailleurs, ont la main. Nous, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire à leur place.
Avec un code identifiant.
Alors, ils ont leur code identifiant, ils ont leur code personnel pour y accéder. Il n'y a qu'eux qui peuvent y accéder. Et les renseignements qu'on leur demandera, entre autres sur leurs compétences, et entre autres lier leurs compétences au métier qu'ils ont déjà exercé, tout cela, il n'y a qu'eux qui pourront le faire, surtout sur ce qui sera révélé aux recruteurs qui pourront avoir accès
la visibilité
à ce dossier. Et ça, donc, c'est nous, on ne peut pas le faire, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Donc, c'est important qu'ils aillent déverrouiller eux-mêmes les critères et les caractéristiques qu'ils auront pu noter dans leur carte de visite, puisque maintenant, ça s'appelle une carte de visite.
Réadapter leur profil, en fait, aussi.
Ou faire en sorte qu'ils puissent mettre l'ensemble des compétences, puisque au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, c'est que maintenant, un CV doit être fait. Alors, il y a toujours plus ou moins une trame, c'est bien de la suivre, c'est-à-dire toujours mettre un titre, le métier dans lequel on recherche. Ça, c'est important pour que l'employeur puisse avoir la visibilité et que ça puisse passer vite, parce qu'il faut savoir qu'un employeur, il a 10 secondes pour lire un CV.
C'est peu, il va très vite,
lit en diagonale, il cherche les mots-clés, les choses essentielles. Donc, il faut être percutant et tout de suite mettre les choses les plus importantes. Donc, le titre, les compétences professionnelles qui sont liées au métier dans lequel vous recherchez. Ça, c'est très important. Son parcours professionnel, du plus récent au plus ancien, les formations, les diplômes, et ensuite le divers, si c'est intéressant et si ça apporte une plus-value pour le CV. Pareil, tout ce qui est linguistique ou connaissances informatiques doit s'insérer dans les compétences professionnelles sous un pavé connaissances.
D'accord.
Et on rappelle aussi que curriculum vitae n'est pas un titre. pour un CV.
Ouais. Un CV, ça se voit très fréquemment, ce genre de formulation.
Bien sûr. Le titre de votre CV, c'est le métier que vous recherchez,
c'est le métier que vous possédez.
Oui, c'est un peu comme si on mettait lettre de motivation, on l'écrivait sur la lettre.
Absolument.
C'est un petit peu.
Ça n'apporte pas. Oui. Le recruteur, lui, sait qu'il est en train de lire un CV, donc pas besoin de le préciser.
Et si, par exemple, une personne manque d'expérience professionnelle, c'est une personne jeune qui a peu ou pas d'expérience professionnelle, comment peut-elle arriver à se valoriser si justement...
Alors, on parlait de compétences. Oui. Les compétences sont encore professionnelles, mais également personnelles. Peut-être que cette personne a des activités extra-professionnelles et donc elle a mis en valeur des compétences qu'elle va pouvoir retranscrire dans le métier dans lequel elle va rechercher. Par exemple, si cette personne est entraîneur d'une équipe de foot, donc elle fait un peu de management, elle encadre des gens, elle fait développer des compétences qu'elle va pouvoir mettre sur son CV qui vont l'aider sur le milieu professionnel. Donc, c'est des transferts de compétences.
D'accord. Oui, on peut aussi imaginer une jeune fille, par exemple, qui aurait son BEP sanitaire, je ne sais plus quel examen vraiment qui permettrait de garder les enfants, mais qui n'est pas encore passé, qui n'a pas d'expérience d'employeur à citer, et elle pourrait faire référence, par exemple, eh bien, j'ai gardé mes neveux.
Par exemple, voilà, également les stages, les gens ont tendance à oublier ça, les stages sont aussi des moments où on développe des compétences professionnelles, même si ce n'est pas des emplois à part entière, c'est quand même des compétences que l'on développe et que l'on peut mettre en avant pour les jeunes, notamment, qui ont fait des formations avec un diplôme au bout et qui ont fait un stage, des fois, de 3 semaines, 1 mois. Pas de souci, il faut le mettre en avant.
D'où les compétences. Mais c'est bien, je trouve, très très bien.
Et puis je rappelle qu'on est là, notre métier c'est de conseiller, et du coup on peut aider les gens lors d'entretiens individuels que l'on a au Pôle emploi pour travailler sur des critères de compétences. On a également des sites qui nous aident en ce sens.
D'accord. Une personne, par exemple, aurait un trou dans son CV, dans ses activités, par exemple, une mère de famille qui aurait élevé ses enfants, comment peut-elle justifier sur son CV un trou ?
Alors déjà, il ne faut pas qu'elle le cache. La première chose, c'est que un break, on va dire, dans sa vie professionnelle, oui. Ça arrive à toutes les femmes, entre autres, qui ont enfanté. Ça peut aussi arriver aux hommes qui
Tout
ont décidé
fait.
De faire un break dans leur vie. Il ne s'agit pas de le cacher, il s'agit simplement de le motiver, d'impliquer que dans sa vie professionnelle, ce break a pu être profitable, a pu justement lui apporter des compétences supplémentaires. Et c'est simplement retourner ce qui pourrait sembler être un désavantage à son avantage. Et dire que justement, eh bien, ce tour de monde que j'ai fait pendant les un an où je n'étais pas là, eh bien, ça m'a permis, etc. etc. C'est ainsi qu'on peut retourner la chose.
Essayer de s'en servir pour mieux rebondir.
Exactement.
Et de s'en faire une force.
Trouver une plus-value, effectivement, à cet arrêt. Et ce qui est très important pour les demandeurs d'emploi, on le voit quand on a des entretiens, c'est que chaque personne doit connaître son CV. Parce que pour mieux se vendre, il est important de bien connaître son parcours, même avec des trous, mais de le connaître. Parce que du coup, c'est plus facile d'avoir un entretien avec l'employeur et de savoir ce que l'on a fait de son parcours professionnel et personnel.
Est-ce que le bilan de compétences existe toujours à l'heure actuelle ? Ou sous une autre forme, peut-être ?
Absolument. Il existe toujours sous une autre forme, en tous les cas, plus en tant que bilan de compétences, mais on a des prestations, notamment Active Projet, ou même avec le conseiller ou sous forme de site avec Emploi Store, où on peut travailler sur ses compétences professionnelles, les valoriser et les transférer également sur un autre métier quand on a eu des accidents de vie ou qu'on souhaite faire autre chose à un moment de son parcours professionnel.
D'accord. Eh bien, écoutez, je propose une petite pause musicale avec Alain Souchon. J'ai 10 ans. Alors, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule.
regret. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tard ta gueule à la récré. Tard ta gueule.
Eh bien, nous sommes donc de retour avec Philippe et Béatrice. Et j'avais, pendant donc cette petite pause, nous avons évoqué effectivement des points extrêmement importants, même capitaux, à ne pas oublier sur le CV. Donc, vous voulez répondre, Béatrice ou Philippe, sur ces points ?
On avait évoqué l'état civil, effectivement, et surtout aussi la photo.
Oui.
Alors sur la photo, on va juste
un
déjà parler
bémol.
De ça.
Ouais,
il faut voir exactement, ça dépend de la situation. La photo, normalement, il y avait un moment où il ne fallait pas mettre de photo.
Oui.
C'était même carrément interdit pour des raisons d'éviter des
risques de
voilà,
retomber.
Voilà, on va dire, exactement. Oui. Aujourd'hui, tous les métiers qui sont des métiers de représentation, des métiers d'accueil, il est important que le recruteur puisse savoir effectivement quelle est l'apparence de la personne,
parce que
ça fait partie du métier, c'est l'image de la société.
C'est l'image de la personne
donc
aussi,
c'est un peu normal.
Alors moi, je mettrais juste un bémol, c'est la photo, oui, mais si elle date d'il y a 10 ans, non.
Voilà.
Parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent avec un CV dont la photo date d'il y a 4, 5, 6 ans, et effectivement, quand on a la personne en face de nous, c'est plus du tout la même représentation de la photo, donc attention.
Oui, parfois, oui. Bon, on laisse un petit peu sa propre susceptibilité de côté. On se dit, j'ai vieilli, je suis moins bien, mais c'est pas grave. Ça sert à rien de tricher.
Absolument.
Parce que le jour où on se retrouve en face...
Le jour de l'entretien, c'est plus compliqué.
Le recruteur se rend bien compte qu'on a pris 10 ans, par exemple.
Et puis, c'est toujours dans l'idée que le CV, c'est votre image. Donc, votre image, c'est votre image aujourd'hui. Mmh. Et c'est pas votre image d'il y a 5 ans.
Et je voulais aussi revenir sur les compétences, parce que c'est très complexe, les compétences.
Absolument.
Moi-même, j'ai cru... lorsque j'ai été moi-même demandeuse d'emploi, ma conseillère m'avait expliqué, m'a donné des conseils à l'époque en me disant « vous confondez expérience et compétence dans mon CV ». Je dis « ah bon, c'est quoi la différence ?» Donc Béatrice, si vous voulez un petit peu...
Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, une compétence, ça se définit en plusieurs axes. Vous avez le savoir, tout ce que l'on a appris à l'école ou au cours des formations. On a le savoir professionnel et on a le savoir-être. Le savoir-être, notamment tout ce qui est la rigueur, la ponctualité, la persévérance. Et les savoirs professionnels, c'est ce que l'on a acquis au cours de notre parcours au sein des entreprises. Et ça forme la compétence professionnelle. Et donc, on peut le mettre en avant dans son CV pour que ça soit le plus juste possible. Donc ça, c'est des notions qu'on peut aider à aborder avec le demandeur d'emploi, qu'on peut travailler. On a aussi au sein du Pôle emploi des psychologues du travail qui sont là pour aussi accompagner les gens et mettre en forme tout ça, tous leurs mots, afin de pouvoir faire un CV qui soit cohérent.
Des psychologues ?
Oui, on a des psychologues du travail au sein des unités. On vient justement à personne d'avoir notre psychologue du travail qui vient d'arriver.
D'accord. Mais le demandeur d'emploi ne la rencontre pas, si ?
Absolument, si. Il la rencontre.
C'est formidable, oui.
On fait un point avec le demandeur d'emploi.
D'accord.
S'il y a un besoin, effectivement, de travailler son projet, ses compétences professionnelles, on sollicite le psychologue du travail, soit à travers une prestation, soit à travers des entretiens formalisés, regards croisés, ou des prestations qui existent au sein de Pôle emploi pour justement travailler
C'est formidable, c'est un tout autre regard.
Absolument, après. Sur les compétences professionnelles.
Il s'agit aussi de ne pas... Vous n'allez pas vous allonger sur un divan en arrivant dans le bureau d'un psychologue, hein, c'est pas un psychiatre, c'est un psychologue du travail, donc
elle est là pour
vous aider à faire le point sur votre situation, sur le regard que vous avez de vous-même.
Sur donc votre projet, sur...
Exactement, donc c'est vraiment purement professionnel, bien entendu.
Vous aviez évoqué tout à l'heure, Béatrice, l'Emploi Store. Vous pouvez un petit peu développer, qu'est-ce que c'est exactement ?
Oui, Pôle emploi a développé des applications, des sites, afin d'aider le demandeur d'emploi et de l'accompagner dans son retour à l'emploi, mais pas que, puisqu'il l'accompagne sur différents items qui seront peut-être l'objet d'une autre... une autre émission sur la formation, sur d'autres choses.
Tout à fait.
Et donc, Emploi Store, vous avez des petits onglets quand vous allez sur Emploi Store et qui sont dédiés à la recherche d'emploi. Donc on appelle ça le B.A.B.A. du CV et de la lettre de motivation, où on donne des conseils précieux à viser et des liens également sur d'autres sites pour vous aider à faire votre CV, le mettre en forme et le comparer avec des choses existantes. Emploi Store est une mine d'informations avec des vidéos sur comment faire un CV. On a également d'autres types de sites comme lesmétiers.net qui peuvent vous aider à voir les compétences sur un métier, voir si ça peut être un métier qui vous plaît et ensuite faire un CV dessus. Vous avez des sites comme l'ONICEP également qui peuvent...
Oui, c'est important de connaître ces sites partenaires.
Absolument, qui peuvent vous aider à mettre en forme votre CV.
On reviendra sur l'Emploi Store systématiquement avec nos demandeurs d'emploi parce que c'est une énorme boîte à outils qu'on leur fournit qui est un peu touffu, il faut savoir où chercher, où trouver, mais il y a forcément une application qui va les intéresser dans le cadre de leur recherche d'emploi. C'est quelquefois plutôt bien mis en image, on a même de la réalité virtuelle. Ce sont vraiment des nouveaux outils qui ont été faits par les spécialistes informatiques de Pôle emploi. Et il y a vraiment des choses intéressantes à trouver dedans.
On a de bons retours sur le site d'Emploi Store et sur le fait qu'il aide beaucoup les personnes, que ce soit des demandeurs d'emploi ou pas. Il n'y a pas besoin d'être forcément demandeur d'emploi pour accéder à l'Emploi Store.
D'accord, voilà, j'allais vous poser la question.
Tout le monde peut y avoir accès.
Ce n'est pas l'espace personnel du candidat.
Non,
d'accord.
Non, du tout.
D'accord.
C'est un lien que vous avez directement à partir de la page directe de Pôle emploi.
D'accord. Et est-il conseillé d'avoir plusieurs CV ?
Absolument. En tous les cas, sur l'espace emploi du demandeur d'emploi, ce dernier peut mettre jusqu'à 5 CV, 5 métiers dans lesquels il recherche. Donc, on a un CV par rapport au métier sur lequel on recherche. Si on répond à une offre de maçon, on donne son CV de maçon. Si on répond à une offre de coiffeur, on donne son CV de coiffeur. Mais en tous les cas, on n'a pas un CV qui fait les deux avec l'ensemble des compétences dessus de maçon et de coiffeur. C'est un CV par métier. Ça, c'est très important de suivre cette règle à la lettre.
Oui, parce qu'après, le recruteur peut ne pas...
Il est perdu.
Voilà, j'allais le dire.
Encore une fois, il a 10 secondes pour lire le CV et il va pas prendre le temps. Il va aller à l'essentiel.
C'est incroyable. 10 secondes sur 200 candidatures qu'il va recevoir.
Ben, faut se rappeler...
L'enjeu est vraiment crucial.
C'est pas son emploi, l'employeur. Ouais. Il est là pour que ça aille vite et de trouver quelqu'un qui va répondre à ses critères. Donc, il faut se mettre en phase avec l'employeur et être le plus percutant possible.
Et si l'employeur passait par un recruteur, par un cabinet de recrutement, spécialisé, ce serait pareil.
Le cabinet ferait ce travail pour lui et prendrait
pareil 10 secondes.
Non, parce qu'il n'a pas que lui.
À ce propos, nos demandeurs d'emploi sont souvent très malheureux parce qu'ils ne reçoivent pas de réponse à leur candidature. Il faut juste leur dire que c'est malheureusement normal parce que c'est effectivement sur les 200 personnes, les 200 CV que notre recruteur doit examiner, il n'a en tout cas pas le temps de répondre aux 198 ou 150 auxquels qu'il le mettra de côté. Donc malheureusement, effectivement, la plupart du temps, vous ne recevrez pas de réponse négative.
C'est ce qu'on dit aux demandeurs d'emploi, c'est que si vous n'avez pas de réponse dans les 10-15 jours, passez à autre chose. Ne restez pas sur la frustration de ne pas avoir votre réponse. Vous n'avez pas de réponse, vous faites une autre candidature, puisque maintenant, il n'y a plus de réponse à chaque CV envoyé.
D'ailleurs, quel est le délai par rapport à une candidature que je vais envoyer par mail ou par voie postale ?
Aucun, ça dépend du recruteur.
C'est à la main du recruteur.
Il n'y a pas de...
Est-ce que son recrutement est rapide ? Est-ce que c'est pendant 3 mois ? Ça dépend de lui. En même temps, j'ai envie de vous dire que vous êtes normalement aussi dans l'obligation, si vous voulez que votre CV marche, de faire une relance. Et on demande aux gens de relancer leur candidature dans les 10 jours après l'envoi, ne serait-ce que par un petit courrier, un petit mail, un petit coup de téléphone en disant « Bonjour, est-ce que vous avez bien reçu mon CV ? Est-ce qu'il ne manque aucun élément à ma candidature ? Où vous en êtes ? Ce poste me tient vraiment à cœur, j'aimerais bien savoir où vous en êtes. »
On n'ose pas toujours, mais il faut le faire.
Il faut prendre le pli.
Et puis ça montre une motivation.
Absolument, et un intérêt pour l'entreprise.
Pour les quelques petites minutes qui nous restent, j'avais envie que vous parliez de la lettre de motivation. La lettre de motivation, bon, ben, quand on n'est pas, voilà, on n'est pas Victor Hugo, on n'est pas écrivain, ça ne vient pas naturellement. Mm-hmm. Comment, quel est le schéma d'ailleurs d'une lettre de motivation ?
Alors, il n'en existe pas de bon. Nous, on donne des conseils. Moi, je travaille beaucoup sur une lettre de motivation en trois paragraphes très distincts, très simples. Et le moyen mnémotechnique que j'ai trouvé, c'est « vous, je, nous ». Vous, la première paragraphe, doit parler de l'entreprise. Si vous faites une candidature, vous êtes préalablement informé sur l'entreprise ou l'offre ou le recruteur sur lequel vous voulez postuler. Donc, un petit paragraphe sur l'entreprise. Ensuite, un deuxième paragraphe sur vous pour expliquer quelle est la chose que vous allez apporter à l'intérêt à l'entreprise, quelles sont vos compétences et quelle est la plus-value de vous dans l'entreprise. Et enfin, la dernière partie, le « nous », c'est-à-dire le fait de faire ensemble une rencontre avec le recruteur et vous-même afin de pouvoir parler ensemble de votre future collaboration.
Est-ce qu'une lettre de candidature spontanée est la même qu'à une offre d'emploi ? Elle est plus facile l'une ou l'autre ? Ou c'est un exercice tout aussi difficile ?
Il est facile ou difficile si vous vous connaissez.
En fait,
si vous savez exactement ce que vous voulez, si vous avez bien étudié surtout l'entreprise dans laquelle vous allez postuler, l'exercice est moins difficile parce que vous savez déjà exactement ce que va vouloir l'entreprise. Vous allez savoir ce qu'elle attend exactement, ce que vous avez à offrir. Et justement, mettre ces deux données en concomitance pour vous dire, bah, vous voyez, moi j'ai des choses à vous offrir qui correspondent à ce que vous attendez. Si les deux, il n'en reste plus qu'à nous rencontrer pour nous voir.
Nous avons beaucoup évoqué le CV, mais je suppose qu'une lettre de motivation, si l'un de vos demandeurs d'emploi avait des difficultés, il peut également, je pense, au sein de vos ateliers et de vos partenaires associatifs.
Pareil que le CV. Voilà. On a effectivement des ateliers qui les aident, puis nous, on est là en appui pour travailler avec eux la lettre de motivation.
Toujours agité.
Voilà. Juste pour le CV, oui. Un petit point qu'on n'a pas abordé, c'est l'état civil.
Oui.
Je tiens juste à rappeler attention à ce que l'on met dans l'état civil quand on met que l'on est marié ou divorcé avec trois ou quatre enfants. Ce n'est pas forcément nécessaire dans le CV, puisque je rappelle que l'objectif du CV, c'est de décrocher un entretien. Donc un futur employeur, quand il voit trois ou quatre enfants, il n'a pas de réponse en face de lui, donc il ne sait pas si c'est des enfants en bas âge qui peuvent être gardés s'ils sont malades ou quoi que ce soit, il se pose plein de questions et du coup, ça peut ne pas déclencher la convocation à un entretien. Donc, pas besoin de mettre ces détails-là. Le nom, le prénom, l'adresse.
Voilà, le nom, le prénom, l'adresse.
L'adresse internet,
oui.
Le mail, le téléphone et ensuite, si on est véhiculé, permis B plus véhicule, ça suffit. Le reste, ça sera à développer lors de l'entretien quand vous aurez passé la première barrière. Et là, vous pourrez dire qu'effectivement, vous avez trois enfants, mais pas de souci, tout de suite, du positif, pas de souci, j'ai quelqu'un qui les garde, j'ai une possibilité quand ils sont malades. Donc, du coup, rassurer l'employeur.
Voilà, et ne lui montrer que ce n'est pas un frein.
Ce n'est pas un frein.
Voilà.
Toujours positif. Et dans votre CV, des termes positifs. Par exemple, quand on parle des langues, ne pas mettre niveau scolaire, mais maîtrise, bon niveau, toujours des mots positifs dans un CV.
Très bien. Eh bien, écoutez, c'était passionnant. Nous resterions encore une demi-heure de plus.
Nous
Il
aussi.
Y a tellement de choses à dire.
J'espère qu'on a répondu à un maximum de gens.
Je vous remercie beaucoup, Béatrice et Philippe, d'avoir répondu à cette interview. Merci beaucoup.
Merci,
merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
C'était les mosaïques des vies. Mots croisés, mots échangés, mots composés, rien que pour vous. Evie sur Alternative FM 106.5.
Les mots, les mosaïques,
les mots, les mosaïques,
les mosaïques,
les mosaïques des vies.